Là, je vous présente deux plans du château. On n'a pas de plan historique, entre guillemets, de l'époque où il existait. Le premier plan, qui est un plan sommaire, qui est un plan du professeur Bornec en 1977, quand il a publié une étude archéologique du château de Rochechinard. Et le plan que vous avez en bas à droite, alors c'est pas du tout arqué, c'est Jocelyn Derbier qui, avec un décamètre, un niveau de chantier et deux copains, pendant une semaine, a levé le plan du château au début des années 2000. Et je l'ai passé à Louis. Voilà. Mais donc là, il y a deux aspects sur ce document. Première chose, ça se ressemble, mais il y a quand même une élongation générale des dimensions. On voit notamment que la plateforme du bout, cette partie-là, est beaucoup plus grande qu'estimée par Robert Bornec. On voit des choses bizarroïdes dont je parlerai, comme par exemple l'énorme épaisseur de la maçonnerie dans ce secteur-là. Et puis, autre chose sur laquelle on reviendra, mais Robert Bornec, quand il a fait sa première étude, a proposé l'interprétation suivante. Il a proposé de voir dans le château de Rochechinard un bâtiment composé de différents éléments de différentes périodes, avec un bâtiment appelé donjon au centre, la tour ronde, qu'il considérait comme étant du XIIIe siècle, protégé par une tour à canon, cette partie-ci, qu'il considérait comme de la seconde moitié du XVIe siècle, et un logis sur lequel il n'était pas très clair, d'ailleurs il y a des points d'interrogation dans ce secteur. Voilà. C'est une hypothèse sur laquelle je suis complètement revenu et je vais vous expliquer et vous démontrer pourquoi. Diapositive suivante. Donc c'est à nouveau le plan, juste pour pointer un aspect particulier. Il y a quelque chose qui n'a pas été vu par grand monde, c'est ça. C'est le rectangle qui est là. Alors, il est situé de manière un peu approximative, parce que je n'avais pas les moyens techniques pour pouvoir le topographier de manière fine. En fait, à cet endroit-là, en contrebas du donjon, dans la pente, il y avait de visible une grande entaille taillée dans le rocher, qui correspond vraisemblablement à la fois à une carrière d'extraction de matériaux pour la construction et très vraisemblablement aussi à l'emplacement d'un bâtiment par la suite. Le problème, c'est que cet emplacement est plus lisible du tout aujourd'hui, parce qu'en 2003, quand cette tour-là s'est effondrée, elle est tombée dedans et elle a rempli. Voilà, diapositive suivante. Voilà, donc on va faire un tour du château en cheminant et en suivant les accès. Alors, mes photos sont des photos qui ont pour la plupart plus de 20 ans. Donc avant les travaux de Louis Arquet, et j'en ai pu en faire à plein de saisons et sous plein d'angles, comme vous allez pouvoir le voir. La particularité, donc, on accède au château par un chemin de plein pied qui longe la montagne, et quand on arrive, le premier truc qui est choquant, c'est la masse minérale qui accueille, et on est face à un ensemble de tours et à une entrée, alors qui ressemble plus à grand chose dans son état conservé. Mais vous avez à droite l'emplacement de la porte, et je vais pointer différents points sur cette porte. Là, vous avez les flèches. Alors, je vais partir de la flèche du bas. Première flèche du bas, vous avez les armoiries figurées. Et des armoiries très particulières, parce qu'elles ont une forme qu'on appelle en chanfrein. Le chanfrein, c'est la pièce d'armure qui va sur la tête d'un cheval. Donc en fait, ces armoiries, c'est symboliquement la tête d'un cheval. Au cran du dessus, vous avez un décroché à angle droit, à la flèche du dessus, qui correspond à l'emplacement de quelque chose, en fait une échauguette qui est connue par les textes. Ah! Ouf, ouf, ouf. Voilà, le dernier point que je voulais vous montrer, la flèche du haut sur la photo de droite. Vous voyez très nettement que le mur de la porte d'entrée est posé contre la tour. Il ne pénètre pas dans la tour. Traduction archéologique, la tour a été construite avant la porte. Traduction chronologique, la tour est, entre guillemets, plus ancienne que les armoiries sur la porte. Voilà, déjà premier détail intéressant. Ensuite, autre point, les deux flèches que vous avez sur la photo de gauche correspondent aux angles de la tour à canon et à l'angle de la porte d'entrée. Vous avez dans les deux cas ce qu'on appelle des pierres à bossage. Donc les chaînages d'angle ont des bosses. On y reviendra après dessus. Diapositive suivante. Voilà, une vue. Alors ça, c'est parmi les dessins exploitables du 19e siècle. En 1838, le peintre Diodore Haou vient faire une série de croquis à Rochechouart. Et c'est un peintre romantique qui, s'il avait produit quelque chose, aurait fait un truc avec plein d'exagérations. Mais là, comme c'est ces croquis de terrain, ils sont justes. Et donc, il y a plein d'éléments qui sont bien visibles dessus, même si, là encore, on peut voir qu'entre 1838 et aujourd'hui, il n'y a pas de grosse différence. Enfin, si, une différence, la fameuse tour qui a fini de s'effondrer en 2003, en 1838, elle est pleine, alors que moi, je ne l'ai connue que éventrée. Diapositive suivante. Donc, le dispositif d'entrée, ce qu'on appelle une barbacane souricière, c'est un système dans lequel il y a toute une série de passages à faire pour ralentir la progression d'un ennemi et le prendre sur le plus de feux croisés possible. Donc, si on franchit la porte d'entrée, notamment par exemple si les assaillants pendant la guerre de religion avaient réussi leur coup avec leurs pétards et leur attaque nocturne, ils se retrouvent dans un secteur où il y a une deuxième porte à franchir et qui forcément est fermée, et ils se retrouvent sous les feux croisés de la tour à canon, et là il n'y a pas la figuration, mais il y a aussi une... peut-être qu'on la voit là-dessus, oui. Vous voyez, en tir rasant de l'entrée, il y a une canonnière qui pointe directement dans la zone d'entrée. Et qui permet d'accéder ensuite à la cour située entre la tour à canon et le donjon. Diapositive suivante. Donc voilà, on a la canonnière, une des canonnières qui plonge dans la zone de barbacane. Et la tour, il faut rentrer encore dans le donjon, et il y a encore une porte, il y a encore une passerelle. Diapositive suivante. Il faut franchir une cour qui est très raide, qui est taillée dans le rocher, et qui est dominée par un passage supérieur qui est ici, qui permet d'accéder à la tour à canon. C'est-à-dire que pour rentrer dans la tour à canon, il faut normalement passer la porte d'entrée, passer la deuxième porte de la barbacane, passer la passerelle, rentrer dans la tour centrale, monter à l'étage de la tour centrale, ressortir. Enfin, c'est quelque chose de très complexe. Diapositive suivante. La tour à canon elle-même. Donc, c'est un bâtiment qui est construit en fer à cheval, et qui est voûté à l'intérieur en cul de four, qui est ce qu'on appelle ouvert à la gorge. Donc, en tout cas, au moins dans un premier temps, comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet deux choses. Ça permet d'évacuer les gaz de tir, puisqu'en fait, on a affaire à vraiment une tour qui est faite pour de l'artillerie à poudre, et pas pour utiliser des arbalètes ou des arcs. Et ça sert aussi à ce que les canonnières qui sont dans la tour centrale visent l'intérieur de la tour à canon. Donc, si jamais la tour à canon a été prise par un assaillant, il serait à nouveau soumis à un tir intensif. Mais cette tour à canon étant ouverte plein nord, rapidement, il y a eu un mur qui a été installé pour la fermer. La particularité aussi de la tour à canon, c'est qu'elle avait un système d'échauguettes. Alors, on voit un corbeau qui tenait les échauguettes au niveau de la flèche rouge tout en haut. Vous allez voir d'autres vues suivantes. Donc, on retrouve là le haut avec le haut de la tour avec la galerie qui dessert l'échauguette ici. La tourelle qu'il y a sur le côté, c'est la tourelle d'escalier qui permettait d'accéder à cette galerie. Et la particularité de cette tourelle, c'est qu'elle avait en partie haute plus d'une soixantaine de niches à pigeons. Donc c'était le pigeonnier du château. Et la fenêtre qui est pointée, c'est pas une fenêtre de vue, c'est une fenêtre d'envol pour les pigeons. Diapositive suivante. Donc voilà un peu sous toutes les coutures, avec le système ouvert à la gorge. On va passer à la suivante. Alors, les canonnières. La particularité, c'est que les canonnières de la tour à canon et celles du donjon sont d'un modèle très légèrement différent. Les canonnières de la tour à canon sont hautes et étroites. Les canonnières du donjon sont basses et très larges. En fait, celle du donjon balaye très loin devant, et, enfin en latéral, alors que celle de la canonnière plonge plus souvent. Et elles sont disposées de manière très complexe. C'est d'une complexité architecturale dingue. Alors la première complexité architecturale qui est facile à comprendre pour tout le monde, c'est la canonnière dite de la tête du diable, celle qui est à gauche, qui est installée sur arête, donc sur un chaînage d'angle, à l'endroit le plus épais de la maçonnerie. Il y a 3,50 m de mur à cet endroit-là. Et les autres canonnières, il faut imaginer que, par exemple, les deux canonnières qui sont ici, elles sont desservies à l'intérieur de manière latérale, alors qu'elles sont verticales ici. Donc elles sont côte à côte, leur embouchure est côte à côte, et là elles sont dessus-dessous, donc elles se croisent pour arriver à générer le tir. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Diapositive suivante. Pareil pour l'aspect complexité, vous avez deux canonnières là à l'intérieur, avec la flèche qui est ici, où en fait on est installé encore dans une arête. Donc ça complique les choses d'un point de vue technique. Puis dernier point, aussi dans cette tour, il y a un des seuls vestiges sculptés du château. C'est un fragment de cheminée, et qu'est-ce qu'il y a dessus? Ben, un bâton du côté. Diapositive suivante. Alors, pour info, c'est pas le même diamètre que les fragments de cheminée qui existent à l'angle du musée, dans le virage. Donc, les fragments de cheminée qui sont dans l'angle du musée, c'est une autre cheminée du même modèle. Ça, c'est les plaques qui sont à l'intérieur des ouvertures de tir. En fait, les ouvertures de tir sont un système un peu qu'on appelle à double ébrasement. C'est un peu, si on est en plan, c'est un peu comme un sablier. C'est large au départ, ça se resserre au centre et ça se réélargit. Et au cœur de la partie étroite, il y a une plaque de visée. Et la particularité, c'est qu'il y a plein de formes différentes. Il y en a qui sont totalement circulaires, comme en bas à gauche. Il y en a qui sont en entrée de serrure, comme à gauche en haut. Et vous en avez d'autres qui sont un peu en 8, comme celle qui est à droite. Donc il y a un peu un catalogue de plein de savoir-faire dans ce bâtiment. Diapositive suivante. Alors le bâtiment « donjon » entre guillemets, pour une bonne raison, c'est que c'est comme ça que l'appellent les textes du XVIIe. Et en général, quand on parle de donjon, on parle d'un truc qui domine. Quand je vous montre la photo d'à côté, là, vous voyez les trois bâtiments. Comment ils dominent, c'est le plus bas. Donc, il y a cette particularité que je vous avais déjà pointée. On a une surépaisseur très importante des murs en partie nord du bâtiment. Détail intéressant, ce que je n'avais pas évoqué jusqu'à présent, mais ce château a la particularité d'avoir des épaisseurs de murs qui décroissent à fur et à mesure qu'on progresse. C'est-à-dire à fur et à mesure qu'on va d'un secteur strictement défensif à un secteur d'habitat, et où il y a moins besoin de se défendre. Donc 3,50 m au maxi pour la tour à canon, je vous ai dit, 2,20 m à peu près pour la tour centrale. Diapositive suivante. Mais jusqu'à 5 mètres dans la zone où c'est vraiment dense. Donc à nouveau la tour, quelques détails. Alors, notamment le fait qu'au niveau de la cour, le rocher a été taillé et elle épouse le rocher. La base de la tour, c'est le rocher taillé. Détail qui est assez intéressant, vous comprendrez après pourquoi. Alors toujours avec le système de canonnière, comme je vous disais, celle-là, je ne sais pas si vous avez en tête celle qui avait la tour à canon, elles sont beaucoup plus larges et plus basses. Diapositive suivante. Ah non, juste un truc. Donc le bâtiment est voûté et avec une couverture en pierre. On verra d'autres vues après, si mes souvenirs sont bons. Diapositive suivante. Peut-être pas tout de suite. Alors, bon, toujours les systèmes de canonnière. Et surtout, détail important, à droite, vous avez un pied droit de fenêtre qui est conservé, avec un départ de fenêtre à meneaux. Et exactement comme à la porte d'entrée et à la tour à canon, on a des pierres à bossage. Des pierres à bossage. Diapositive suivante. Alors là, je vous emmène au pied de la tour. Vous avez en fait un trop-plein de citernes qui dépassent. Ce qui est intéressant, je ne sais pas ce qui a été fait, mais en tout cas à l'époque où j'ai été sur place, il faut imaginer qu'au-dessus du trop-plein de citernes, il y avait plus de 2 mètres de remblai. Donc là, la tour du côté nord, diapositive suivante. Alors, à la verticale de la porte d'entrée, on a sur le dessin de Diodore Raoult en 1838 un détail intéressant qu'on devine à peine sur la vue plus récente ici à droite. En fait, on a trois trous d'ancrage pour encore une échauguette qui domine la porte et qui la protège. Diapositive suivante. Voilà, une vue de détail de la couverture du donjon. Vous ne pouvez pas voir actuellement puisqu'il est bâché pour protéger le bâtiment de l'humidité. Et on a ces grosses dalles sur le dessus. Diapositive suivante. Donc l'intérieur de la voûte. Suivante. Alors à l'intérieur, on a un bâtiment qui se répartit sur plancher, sur 5 niveaux, avec des fenêtres à meneaux qui sont, par les textes, à double croisière ou simple croisière côté nord. Donc ça veut dire une croisée de meneaux côté sud et une fenêtre plus étroite, de manière assez logique, côté nord. Et toutes ces baies ont systématiquement un banc d'embrasure, ce qu'on appelle un coussiège, qui permet et qui est à double banc côté sud, à simple banc côté nord. On a des cheminées à tous les étages. On a aussi, là encore, des dispositifs complexes, parce que par exemple, là, le détail de la photo de droite, priorité de l'objectif, c'est une canonnière haute qui est desservie depuis la baie, dans l'épaisseur du mur. Diapositive suivante. Alors, le bâtiment situé adjacent au château, qui avait été interprété par Robert Bonnec comme un escalier, ce n'est pas un escalier parce que il n'y a pas de traces de marche à l'intérieur, il y avait des traces de niveau sur plancher et d'un voûtement. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire le plan avant l'effondrement de 2003 et de pouvoir faire des observations à ce moment-là. Et en fait, on sait aussi par les textes que ce bâtiment abritait au rez-de-chaussée le four du château, le four à pain. Est-ce que vous avez pointé à droite, c'est ce qui restait à l'époque de cette prise de vue de la cheminée du four à pain. Diapositive suivante. Alors, il y a des espaces qu'on connaît peu. Donc, la partie en contrebas que je vous ai déjà évoquée, où vous avez une photo du rocher très bien taillé avec des traces d'outils très régulières à droite. Puis, il y a tout l'espace intermédiaire entre les bâtiments donjons et logis, pour lequel aujourd'hui c'est très difficile de lire quelque chose parce qu'il n'y a plus rien en élévation. Diapositive suivante. Donc on passe au logis, donc comme je vous disais toujours, les murs continuent de décroître. On est plutôt de l'ordre du mètre et dans des ordres plus classiques pour du bâtiment. La particularité importante, c'est qu'en plan, ça se voit très bien, et comparé à la vue en coupe que vous avez là sur la photo à droite, c'est que ce logis. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est vraisemblablement le quart des bâtiments. Donc on va s'intéresser à la partie du logis qui est conservée. Diapositive suivante. Donc sur la façade principale, alors un détail sur la photo de gauche qui est intéressant. Au-dessus de la flèche, vous avez des bossages. En dessous de la flèche, sur cette face-là du mur, il n'y en a plus. Ils ont été bûchés, ils ont été cassés, alors que sur l'angle opposé, il y en a. Et au niveau où cette rupture se passe, on a un double alignement de poutraisons. Et c'est la trace d'un bâtiment qui venait s'appuyer, de la toiture d'un bâtiment qui venait s'appuyer contre ce bâtiment à un moment donné et qui correspond à une deuxième étape dans le bâtiment. Autre point important, donc là, c'est pris côté nord. Vous avez dans ce logis conservé des portes qui donnent sur le vide. Alors, ce n'est pas des portes qui donnent sur le vide, c'est des latrines. Donc, il y avait toute commodité, il y avait des toilettes et qui sont disposées de manière intelligente, c'est-à-dire qu'elles sont décalées l'une par rapport à l'autre de manière à ce que celui du dessus ne gêne pas celui du dessous. Et puis, détail très important, j'espère qu'un jour on arrivera à aller récupérer ce truc-là. Dans le secteur où est la flèche rouge complètement à droite, il reste dans le trou de boulin. En fait, vous voyez des petits trous carrés, des petites taches noires très régulières qui correspondent aux ancrages des échafaudages qui ont permis de monter le bâtiment. Ce qui permet d'ailleurs de dire que c'est un bâtiment qui a été élevé d'un seul jet avec un même échafaudage de manière très régulière. C'est les mêmes rangs, il n'y a pas de rupture violente. Voilà. Et dans ce secteur-là, il y a encore un boulin en bois conservé de l'époque de la construction, sauf qu'il est absolument inaccessible aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à mettre la main dessus un jour, parce que là-dessus, on pourrait faire une datation, soit par dendrochronologie, soit par carbone 14, et avoir une bonne idée de la datation de ce bâtiment. Ça reste à voir. On peut dater d'autres choses que du chêne avec la dendro. Maintenant, oui. Par comparaison de courbes, il y a des méthodes qui permettent pas toutes les essences, il y en a où ça marche pas, et puis il y a plein de contraintes, ça c'est sûr. Diapositive suivante. Alors, autre petit détail, on a à nouveau sur une autre face du bâtiment deux trous sur la façade qui correspondent encore potentiellement à un ancrage de poutraison lié à un bâtiment qui s'est accolé à un moment donné contre. On a la fenêtre à meneaux conservée, alors il manque la partie verticale. Mais cette fenêtre à meneaux, vous pourrez constater que, vous l'aurez compris, il y a des pierres à bossage à cette fenêtre à meneaux. Vous voyez très bien les bossages sur les angles sur la photo de gauche. Et sur la photo de droite en bas, en fait, c'est l'angle au niveau des latrines. Donc vous avez le corbeau de soutien pour les latrines qui dépassent dans le vide. Et là encore, on a une chaîne d'angle à bossage. Diapositive suivante. Collé contre ce bâtiment, vous voyez très bien sur la partie de gauche, on a un petit bâtiment très détruit qui correspond à une tourelle d'escalier. Cette fois-ci, c'est une certitude. Notamment, vous pouvez le voir là, on a très nettement les emmarchements en molasse qui ont été cassés. Et d'ailleurs, on les retrouve ici aussi. Diapositive suivante. Donc ça, c'est l'intérieur de la partie logis. J'ai pas de photo de la partie basse, mais en partie basse, on avait un système voûté, mais qui est venu dans un deuxième temps. Et ça, j'ai retrouvé le préfet de construction des maçons. Ça a été fait en 1682. Avant, le rez-de-chaussée n'était pas voûté. Et ça correspond aux cuisines. Il y a un emplacement d'une grande cheminée qui est assez visible. Et sinon, sur les étages, là aussi, confort, on a des cheminées. Donc vous avez les emplacements négatifs très visibles ici. Soit en détail, soit en fond de bâtiment. Je crois qu'on va pointer, oui c'est ça, diapositive suivante. Donc on se retrouve à l'angle du logis, dans la partie que j'ai appelée salle, avec un tout petit chicot de mur qui ressemble à pas grand chose. Sauf que ce petit chicot de mur, il est très intéressant. En fait, il y a des choses très compliquées qui se passent dans le mur à l'intérieur. Ce mur, il a a priori, il est a priori antérieur à la partie avec les pierres à bossage que je viens de vous décrire. Donc il est plus vieux. Tous les chaînages intérieurs sont en tuf, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le bâtiment. Donc on a quelque chose d'autre qui se passe là, et on a en plus un petit jour vertical, une petite. Petite lumière pour pouvoir porter un peu de lumière à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, on a vraisemblablement quelque chose qui correspond à un état assez ancien du château. Ce petit reste, c'est probablement un des plus vieux morceaux perceptibles du bâtiment. Diapositive suivante. Donc on termine la visite par ce que souvent localement on appelle le jardin, qui, vous l'aurez compris, n'est pas un jardin. Et la particularité intéressante, c'est que donc on a dans ce secteur-là, j'ai mentionné salle, parce que dans les châteaux, il y a ce qu'on appelle la hola, la grande salle seigneuriale, c'est toujours un endroit très important. C'est dans l'endroit où le seigneur se met en représentation, c'est là où il reçoit. Et c'est, on va dire, l'équipement minimum dans un château. Il faut qu'il y ait souvent le binôme aola-caméra, la salle et la chambre pour que le seigneur puisse recevoir. Et la particularité, c'est que si on prend les textes du 7e siècle que je vous ai évoqués, qui sont très riches en descriptions, dans cette partie-là, on s'y perd complètement parce qu'il y a plein de pièces. Il y a plus d'une trentaine. Et dans ce secteur-là, il y a une pièce que les textes du 17e appellent la salle du Turc. Et c'est la grande salle seigneuriale de Rochechinard qui, au 17e, est symboliquement remplie de manière extrêmement parlante. Un seigneur qui a la haute justice, il a le pouvoir de vie et de mort par la justice sur ses paysans. Dans cette salle sont rassemblés tout l'armement que possède le château au XVIIe, dans des coffres. Il a un pouvoir judiciaire, donc administratif, donc toutes les archives du château sont dans cette même salle. Il a un pouvoir financier, puisqu'il prélève les impôts. Les réserves de céréales du château sont dans cette salle. Là aussi, il a un pouvoir de vie et de mort, notamment le droit de chasse. Il y a 30 massacres de cerfs sur les murs de cette salle. Et dernier point, dans cette salle, si on compte les bancs et les chaises, on peut recevoir jusqu'à une quarantaine de personnes. Donc on est vraiment dans un espace de mise en représentation, et ça, encore au XVIIe siècle. La particularité de la terrasse du bout, c'est qu'elle est très complexe. Il y a plein de choses qui se passent, qui sont très difficiles à lire, parce que c'est dans la zone vertigineuse. La particularité qu'a montré le relevé, c'est que les murs épousent au mieux le rocher pour avoir le plus de place possible. Puis il n'y a qu'un endroit où il y a un accident, entre guillemets, c'est tout au nord, où on a une abside arrondie. Et j'ai mentionné qu'en 1275, on a la mention d'un chapelain. Donc, vraisemblablement, on a la chapelle à cet endroit-là. En tout cas, c'est l'hypothèse. Diapositive suivante. Donc, à nouveau, les détails des terrasses. Alors, ça, on le voit d'en bas. Il y a comme une grande arche dans le mur. Ce n'est pas une ouverture à cet endroit-là. Hein. C'est juste un arc de décharge pour renforcer le mur. Diapositive suivante. Donc, autre angle de vue, c'est très difficile d'avoir une vue où on voit l'arrondi, on l'a dans cette partie-là. Je crois qu'on a un détail après. Voilà. Maintenant, on va faire la synthèse de tout ça assez rapidement et on va voir les trois grandes étapes, parce que malheureusement, pas assez d'infos pour arriver à découper plus finement le phasage de la construction du château, de manière évidente. Si je vous ai dit qu'a priori, on a de manière certaine un château depuis le XIIIe siècle, probable depuis le XIe, XIIe. Un château qui est abandonné au XVIIIe, ça nous fait pas mal de siècles pour que chaque génération apporte son grain de sel dans la construction. Donc, le truc le plus important, c'est que sur l'état ancien, vraisemblablement, on a affaire à un château beaucoup plus petit. Alors, la position suivante. Alors, c'est un dessin très maladroit, je m'en excuse auprès de monsieur Haut, d'une figuration. Alors, c'est de l'imagination, tout en se basant sur ce qu'on peut observer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'idée, c'est qu'on a un château beaucoup plus petit, qui se présente de la manière suivante. Il est installé toujours sur l'échine rocheuse, il n'y a pas de problème. Il a un grand mur qui barre, il a un fossé sec qui coupe l'éperon. Il y a différents espaces, peut-être des éléments bâtis en partie basse dans ce grand rectangle que je vous ai représenté. Il a une chapelle et puis il a un espace avec une aola et probablement une tour, parce que c'est un symbole seigneurial classique et basique. Diapositive suivante. Pour le XIIIe siècle. L'interprétation que j'en fais, en fait, c'est que topographiquement, le point le plus bas du site, c'est le cœur du donjon actuel. Quand j'ai fait les relevés, entre le niveau de remblai à l'intérieur du donjon et le dessus de la terrasse, il y a 12 mètres de dénivelé. Et 10 mètres avec la partie tour à canon. Et on a cette surépaisseur dans la maçonnerie de l'ordre de 5 mètres au niveau de la tour, que j'imagine comme la trace de l'ancien mur qui barrait l'éperon. En tout cas, c'est la proposition de lecture que je fais du site. Et puis ce site, il va survivre sous cette forme-là, d'une roca, donc un site rocheux construit, assez simple et classique finalement, jusqu'à une énorme phase de transformation à la fin du XVe siècle. Diapositive suivante. Donc on passe à ça, qui ressemble beaucoup plus à l'état des ruines encore aujourd'hui, donc avec une partie logis beaucoup plus grande, comme ce que je vous ai expliqué. Et ce qui m'a amené à proposer une seule grande étape de construction, alors une seule grande étape qui ne s'est pas faite en un claquement de doigts, il y a eu forcément un phasage intérieur. Je vous ai déjà expliqué que notamment, par exemple, la porte d'entrée a été faite après la tour à canon. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, intervient dans les années 1480, à peu près. Et ça se marque par, vous allez le deviner parce que j'ai été très lourd là-dessus, la présence de pierres à bossage dans tous les bâtiments, donc qui montrent un style uniforme. Ça se marque par la présence des armoiries à la porte d'entrée. La particularité, c'est que en dehors de l'écu qui est conservé au château, j'en connais trois autres, dans des états plus ou moins variables, dont deux qui sont conservés et présentés au musée. Ils sont tous avec des écus en chanfrein. Il n'y a pas d'autre forme. On n'a jamais, à ma connaissance, jamais aucun écu de forme classique n'a été vu sur la commune ou dans les vestiges du château. Et dernier point, on a dans la tour à canon ce fameux motif à bâton écoté sur une cheminée, et puis plusieurs traces de construction, d'encadrement de fenêtres ou de cheminées ou de portes comme au musée, qui sont en réemploi dans les maisons du village et qui proviennent du château et qui portent là encore ce bâton écoté. Diapositive suivante. Voilà, donc on aurait une seule grande campagne de construction pour ces trois éléments. Et pour pouvoir savoir d'où sont les origines de tout ça, les années 1480, je vous l'ai dit, c'est la famille Allemand. Vous avez compris que le bâton écoté, c'est leur symbole, donc déjà vous avez un petit indice. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'une famille seigneuriale arrive à construire un château de cette taille-là, de cette puissance-là, à cette époque-là? La guerre de Cent Ans est finie. Il n'y a plus de conflits au niveau régional. Le roi de France de l'époque, c'est Louis XI. Et il serre la vis sur le pouvoir seigneurial. Et sous Louis XI, les seuls qui ont l'autorisation de fortifier, c'est ses petits favoris. Et je crois vous avoir dit qu'il y a quelqu'un qui était dans les petits papiers du roi Louis XI. Il s'appelait Antoine Allemand de Rochechinard, évêque de Cahors. Donc, diapositive suivante. On a la particularité, donc on retrouve le bâton écoté de la porte du musée, vous avez l'écu de la porte d'entrée du château, vous avez un fragment de manteau de cheminée portant l'écu en chanfrein qui est conservé au musée, et qui lui est lisible, et où on voit très bien le lion. Vous reconnaissez la bande. On peut lire plus ou moins les fleurs de lys qui ont été rabotées, bûchées. Et si vous regardez bien l'écu du château, lui aussi était sculpté. On a ici le départ du chef de la bande. Diapositive suivante. Donc là, je vous emmène rapidement dans un très grand voyage, puisqu'on va aller de la Turquie jusque dans le sud-ouest. Ça, c'est le château Saint-Pierre à Bodrum, en Turquie. Donc le château qui a été dirigé par Charles-Allemand de Rochechinard au milieu du XVe siècle. Diapositive suivante. Et ça, c'est les armoiries des seigneurs de Rochechinard, avec marqué dessous, en toutes lettres, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, Frater Carolus Allemandi de Rochechinard, edificavit 1473. Il y a même la date. Et c'est sur un mur qu'il a fait construire dans le château Saint-Pierre. Ça, c'est un aspect qui est très intéressant, puisque on a la certitude qu'on a un membre de la famille qui maîtrise la construction castrale. La construction castrale de pointe, parce que chez les hospitaliers, on est au contact et direct de l'ennemi turc en permanence. Donc on est à la pointe de la technologie. Et on a une date, 1473, où Charles Allemand a fait construire quelque chose. Donc techniquement, par exemple, on peut tout à fait imaginer, sans qu'il n'y ait absolument aucune certitude, hein, on est bien dans l'hypothèse, mais qu'il ait envoyé un des maîtres d'œuvre qu'il connaissait à sa famille, par exemple. Ou en tout cas qu'il ait su indiquer les bonnes personnes à choisir pour faire une construction. Diapositive suivante. Toujours pareil, la particularité, je vous ai dit que les hospitaliers étaient à la pointe de la technologie pour se défendre. En 1480, et Charles Allemand est présent, ils vont résister aux Turcs sur l'île de Rhodes de manière très violente. Il faut savoir qu'il y a une armée de 50 000 hommes qui va assiéger la ville. En face, ils sont 500 chevaliers et 5 000 mercenaires. Et à la fin du siège, ils sont 251 chevaliers. Donc ils ont payé le prix fort. Voilà. Donc ils sont vraiment en pointe. Et ça se marque notamment par le fait que Charles Allemand au moment où il était grand prieur, et commandé pour la défense de Rhodes une série de 4 canons, dont on voici un exemplaire. Celui-là, c'est le Saint-Gilles, qui est conservé aujourd'hui aux Invalides. Alors, à l'époque où j'en ai fait la découverte, il était dans la cour d'honneur, c'est ce que présentent les photos. Il est maintenant présenté dans les collections à l'intérieur, et sous sa bonne appellation, puisqu'à l'époque, il n'était pas interprété comme un canon de Charles Allemand de Rochechinère, mais comme un canon d'un membre de la famille de Bourbon. Diapositive suivante. Comment ? Ouais, c'est ça. Alors, voilà, là on va faire la bascule. Donc ça, c'est là encore sur le canon. Bah, vous reconnaissez l'écu en chanfrein, pas tout à fait la même forme, mais encore la même chose. Et la particularité, c'est pareil. Ce canon, je l'ai pas mis en photo, mais il a une date. Il a été fondu à Lyon en 1507. Donc déjà, on a une fourchette de dates entre 1473 et 1507 qui nous donne une période de champ des possibles, où on a des gens qui s'y connaissent en armement et en fortification. Et puis, ben, pareil, alors dans les années 1490, là, on change complètement de localisation. L'écu que vous voyez là, qui ressemble bigrement à ce qu'il y a au musée ou au château, il est dans la petite église des Arcs, dans le département du Lot. Et le département du Lot, ben, c'est l'évêché de Cahors. Et donc là, c'est pas l'évêque, c'est un de ses neveux qui était chanoine qui a fait construire dans cette église, qui est une église romane dans laquelle il a rajouté ses armoiries. Mais on a vraiment là encore exactement la même chose. Diapositive suivante. Ça, c'est la chapelle Notre-Dame dans la cathédrale de Cahors qu'a fait construire Antoine Allemand, évêque de Cahors, en 1484. Pareil, on a une date. Et la particularité, c'est qu'on a un décor qui est très chargé, qui présente, alors il a été assez massacré, mais il y a des éléments de bâton écoté. Il y a des roses et des soleils. Si vous vous souvenez, je n'ai pas souligné ça, mais si vous vous souvenez du pacte de famille de 1455, au centre, il y a une rose et un soleil. Et puis on retrouve les fleurs de lys sur fond rouge des armoiries familiales. Diapositive suivante. Là, on a affaire à un bâtiment qui est dans la ville de Cahors, qui s'appelle l'hôtel d'Allemand. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à l'hôtel d'Allemand ? Eh ben, il y a des roses, des bâtons écotés. On retrouve, alors pour le coup, un écu de forme traditionnelle, mais où on peut quand même lire. On voit la bande, on voit la partition en quatre, ici, même s'il est en mauvais état. On retrouve des motifs de bâton écoté à l'intérieur. La particularité, c'est qu'en Quercy, dans le diocèse de Cahors, le style de construction de la famille Allemand a plu et que c'est devenu une mode à la fin du 15e, début du 16e siècle. Et qu'aujourd'hui, dans ce secteur-là, on recense plus d'une soixantaine de bâtiments qui comportent des décors de bâton écoté. Diapositive suivante. Alors, on va finir avec ce site-là, qui, pour moi, est une comparaison très intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le château de Bonnaguil. C'est dans le Lot-et-Garonne, donc en limite entre le Lot et le Lot-et-Garonne. C'est pas dans l'évêché de Cahors, c'est dans l'évêché d'Agen, mais c'est vraiment juste à côté. C'est à 50 km de Cahors. La particularité de Bonnaguil, c'est que son seigneur, de la seconde moitié du XVe siècle et du début du XVIe siècle, Béranger de Roquefeuille, a fait complètement transformer et construire un énorme château. Alors, il n'est pas comparable à Rochinard, hein, il est bien plus gigantesque. Je crois qu'en surface, c'est 1800 mètres carrés, donc c'est assez colossal. Sauf que Béranger de Roquefeuille reprend un château antérieur plus petit qui est au centre. Vous avez le donjon ici. Il remodifie tout ça, il le modernise et deux choses. Déjà, Béranger de Roquefeuille, son soutien à son mariage, il s'appelle le roi Louis XI. Et puis, diapositive suivante. Ça, c'est quelques vues de Bonnaguil. Bon, on a le même genre de système, donc des canonnières très similaires. Alors, avec un bâti beaucoup plus soigné qu'à Rochechinard. Les moellons sont beaucoup mieux taillés et plus quadrangulaires. On a des logiques où le bâtiment vient vraiment épouser, tailler le rocher et lui donner forme. Et on retrouve des systèmes avec des couvertures de lauzes aussi. Donc là encore, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tentant. En tout cas, on a affaire de toute façon un château très similaire qui connaît une énorme transformation à peu près sur la même période, même si pour l'instant j'ai un petit doute parce qu'il y a une publication récente qui semble prouver que le gros de Bonnaguil a été fait entre 1505 et 1520, donc bien plus tard que ce que j'estime pour Rochechinard. Mais bon, en tout cas, la comparaison est intéressante. Et il y a aussi un côté, comme notamment la tour à canon de Rochechinard, catalogue de tout ce qu'on peut faire d'impressionnant et de moderne, entre guillemets, pour l'époque, dans le château de Bonnaguil. Je crois qu'on doit être quasiment à la fin. Voilà. Donc, dernière petite vue. Donc, les modifications au XVIe siècle, elles sont plutôt marginales. Notamment, la seule certitude, c'est que les meuniers construisent une galerie à la française qui est mentionnée par les textes. Et en fait, c'est ce que je propose ici. En fait, à l'emplacement, vous avez les traces dans la façade du logis. C'est l'endroit où vous pourrez logiquement se placer, puis ça colle à peu près bien quand on suit les textes. Et puis, on va passer à la conclusion. Voilà, tout ça pour vous dire que... c'est pas simple de rassembler l'information sur tout ça. Qu'il y a encore plein de questions sans réponse. Je vous ai évoqué le cas de Bonnaguil, qui est une comparaison intéressante, mais qui fait grincer la comparaison par rapport aux dates que j'ai là. Donc, il fait partie des choses qui m'incitent à reprendre le dossier avec deux aspects. Primo, la prise en considération de l'avancée des connaissances. Parce que ces 20 dernières années, il y a eu pas mal de progression sur la connaissance des fortifications adaptées à l'artillerie à poudre, comme les Rochechinard en France. Et il y a eu des gros colloques de faits, donc il y a des résultats et des choses de comparaison que je n'avais pas par le passé, donc des choses qui sont à réexaminer. Et puis par ailleurs, je m'associe à un gros programme qui est en cours pour sa deuxième ou troisième session de 3 ans maintenant, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un programme, un PCR, donc un programme commun de recherche, qui associe des dizaines de chercheurs autour du programme Fortifier les Alpes. Et dans ce cadre-là, il y a notamment un axe de recherche autour de la datation des sites et la datation des typologies, des formes, des ouvertures de tir, des fenêtres, des cheminées, etc. Donc, à la fois, le château de Rochechinard peut devenir un bon exemple pour ce corpus, et à la fois, il peut aller chercher dans ce corpus des informations pour essayer d'affiner les choses. En tout cas, pour moi, l'idée évoquée au départ par André Doyon d'une construction dans la seconde moitié du XVIe siècle de la partie tour à canon, il faut l'écarter complètement. c'est complètement ringard pour la seconde moitié du XVIe siècle. On est plutôt éventuellement première moitié du XVe. Mais première moitié du XVe, comme je vous l'ai dit, il y a un gros problème chez la famille allemande. Personne n'a les moyens de construire un bâtiment de cette taille-là. Alors qu'au contraire, dans la seconde moitié du XVe siècle, on a des traces de richesses très importantes. Et un autre aspect que je n'avais pas évoqué, mais Antoine Allemand, évêque de Cahors, soutient son neveu Barachin, l'aîné de famille, en lui achetant des seigneuries, et à tour de bras. L'argent de tonton coule à flot pour nourrir la famille. Donc ça fait partie des arguments qui vont dans le bon sens. Pareil, le passage du prince Zizim. Là, il y a deux hypothèses possibles. Soit, ce que je pense, quand le prince est accueilli, le château vient d'être fini. Et on a un truc top, protection, dans une période difficile, pour protéger le prince. Deuxième solution, le château n'est pas terrible à cette époque-là, mais c'est familial, on gère le secteur et on est capable de se défendre dans cette zone-là. Et c'est suite au passage du prince qu'en remerciement, on a les moyens de construire quelque chose. C'est l'autre champ des possibles. Voilà. Mais, ben, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans les choses que j'envisage de faire, avec l'autorisation de Louis Arquet, si me l'autorise, c'est d'envisager un relevé drone 3D du site, parce que là aussi, les technologies ont avancé et sont beaucoup plus faciles à maîtriser et plus abordables aussi en coût, qui permettra de garder une trace de l'état du bâtiment, quelle que soit son évolution par la suite, et aussi d'observer des parties qui, enfin voilà, vous avez vu comme j'ai tourné autour du site pour essayer d'avoir des vues dans tous les angles possibles, fait des observations téléobjectifs à la jumelle, etc. Avec une vue drone, on est capable d'aller beaucoup plus près et voilà. Donc si je vous dis ça aussi, c'est que ben tenez-vous au courant parce que je vais demander des financements et dans peu de temps je vais ouvrir une cagnotte pour se relever drone. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire du château et la préservation de sa mémoire, c'est une des pistes possibles. Je vous remercie de votre attention.
Oui, vous pouvez vraiment l'applaudir. Hein. Vous pouvez vraiment l'applaudir parce que ouais, c'est. En tous les cas, il nous a dit à suivre. Hein. C'est évident. Donc, Jocelyn, merci pour tout ce travail. Donc, pour la cagnotte White and Sea, il n'y a pas de problème. Et merci pour cette balade dans le temps et dans l'espace. Hein. On a parcouru les siècles. Et il y a quelque chose qui m'a épaté. Et on dit que le diable se cache dans le détail, Jocelyn. Tu as dû énumérer plus d'une centaine de noms. Et puis à un moment donné, j'étais content. Tu as dit, oh, j'ai oublié. C'est le fameux général royal, le fameux général républicain, le fameux général bonapartien, napoléonien, qui s'appelait...
J'ai oublié.
Voilà. Et ça aussi, ça montre la limite de l'humain. Et merci de le prouver, parce que vraiment, tu nous as épatés à travers tout cela. Alors... Moi, je pense qu'on va demander s'il y a des questions. Moi, j'en ai quand même une, parce que tu nous as parlé, à travers les meurtrières, les échauguettes, de canonnières. Qu'est-ce que c'est qu'une canonnière ?
Une canonnière, c'est une ouverture de... Une canonnière... Alors ? Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut plus ? Fatigue ? Non, c'est bon. Oui, une canonnière, bah, c'est l'équivalent... Enfin, c'est une catégorie de meurtrière, si le terme est plus parlant. C'est une ouverture de tir. Globalement, il y a deux types de meurtrières. Il y a les archères et puis les canonnières. Puis, si on veut chipoter, il existe des archères canonnières. Mais ça, c'est...
Alors, quel était l'objet
de guerre passé à travers la canonnière ? C'est des couleuvrines ou des arquebuses.
Ouais.
Oui. Alors, quand c'est des couleuvrines, on peut avoir affaire et certaines de, il y a des observations plus fines à faire sur place au château, mais la couleuvrine, c'est un petit canon et qui peut être fixé sur un axe qui est fixé dans la pierre dans la première partie de l'évasement. En tout cas, on a attestation au XVIIe siècle, donc bien après, que dans le château, il y en a des couleuvres.
Où est-ce qu'ils mettaient leurs chevaux ? Ça, c'est une grande question. Et puis j'ai vu aussi autre chose qui m'a surpris, qui n'avait pas été mentionné dans ce que vous avez dit. Un endroit au pied de la roche, il semble y avoir une rampe qui monte avec un mur de soutien. Je ne sais pas si vous le connaissez. Face à nous, face à ce qu'on voit du château, au pied, et ça monte. Il y a une rampe qui semble être un chemin de passage à un moment donné, mais qui disparaissent tous les éboulements.
Alors, pour les chevaux, le seul indice qu'on ait, c'est pour le 17e, la mention d'une écurie dans la partie entre le donjon et le logis. Mais c'est assez surprenant parce que ça veut dire qu'il faut faire passer les chevaux dans le donjon. Et puis, peu de chevaux, de toute façon. Bon, vraisemblablement, je pense que ce château a été doublé très tôt d'une ferme seigneuriale en contrebas. Et que donc, les chevaux ont arrivé à cheval. On laissait le cheval à un palefrenier, un peu comme un valet pour la voiture dans certains endroits de luxe aujourd'hui. On est dans l'hypothèse. Hein, voilà. Après, pour la partie basse, il y a effectivement des éléments, et j'ai jamais pu l'occasion de voir ça de près, enfin de prendre le temps dessus. Mais je soupçonne la présence de bâtiments en fait au pied du château.
Dans le chemin qu'on pratique pour arriver jusqu'au château, il y a un endroit où la roche semble avoir été un petit peu, elle est un petit peu à l'écart du chemin. C'est-à-dire que ça laissait de la place peut-être pour des constructions en bois ou quelque chose comme ça. Je sais pas.
Oui, c'est de l'ordre du possible. Après, ça fait partie des choses, enfin qui. Des multiples questions. Parce que la particularité d'une recherche, quoi qu'il arrive, c'est que ça soulève souvent plus de questions que ça ne résout de choses. Voilà.
Je suis content que vous rouvriez le dossier parce que maintenant, il va falloir faire coller la réalité scientifique avec la BD.
C'est ça. J'ai juste une dernière chose à dire qui est extrêmement simple. Le projet aussi de reprise du travail, c'est quand même à terme, mais il faudra être patient, un bouquin.
Bon, je crois qu'on peut encore le remercier. Et donc en l'applaudissant. Et au nom de l'association, sur Gueule de Séquoia, un petit whisky de la distillerie. Voilà.